21h passée de quelques secondes sur Radion. Très bon début de soirée à toutes et à tous. Bonsoir et merci d'être fidèle à ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. C'est à une émission hommage à laquelle je vous convie ce soir. Nous apprenions en effet la disparition du poète et romancier québécois Christian Bilodeau le 24 avril dernier, à l'âge de 63 ans. Nous avions reçu Christian Bilodeau à 3 reprises devant le micro de votre émission littéraire. D'abord en 2015, où nous l'avions rencontré, alors qu'il était en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay. Nous avions alors évoqué avec lui son roman « Au pays d'Alexandre » paru aux éditions La Semaine. En 2015, Christian Bilodeau évoquait « Mémoire à la mer », toujours aux éditions La Semaine, un émouvant roman qui abordait l'exil volontaire d'un quarantenaire québécois comblé par la vie, mais atteint de la maladie d'Alzheimer, qui décide d'aller s'installer sur l'île Aubernache, au confluent du Saint-Laurent, pour s'adonner à l'écriture de ses souvenirs, afin de conjurer la maladie et pour ne pas devenir un être de l'oubli. Et puis en décembre 2017, nous retrouvions à Clamecy, avec plaisir, Christian Bilodeau, à bord d'un wagon-livre pour un enregistrement consacré à son 5e livre, Terre de souche, aux éditions Viva, un roman qui relate l'installation en 1906 d'un jeune couple bourguignon au Québec, au bord du lac Saint-Jean. Un roman qui rend hommage aux colons français et à l'esprit pionnier qui ont contribué au développement de certaines provinces de nos lointains cousins. L'occasion pour lui de souligner que ses ancêtres, au XXe siècle, vivaient en Côte d'Or. Sa grand-mère Suzanne était née à Dijon et son arrière-grand-père Besson a vécu à Auxonne, puis à Paris, avant de venir s'installer au Québec. Amoureux de la culture française et attaché à la francophonie, Christian Bilodeau adorait la France qui était son 2e pays. Il y cultivait de nombreuses amitiés chères à son cœur, appréciait notre gastronomie et ne cachait pas son émotion à revenir fréquemment sur la terre de ses ancêtres.
C'est mon 36e voyage en France, en Europe, mais en France plus précisément parce que la France, de tous les territoires, les pays que j'ai visités, c'est mon plus grand pays de coup de cœur. Je considère que c'est un des plus beaux pays au monde, la France. Au niveau de sa géographie, ses territoires, sa culture, et tout. C'est un bonheur. Moi ici, la France, ça me colle à la peau et au cœur. Et j'aime le Québec. Pourtant, je suis très, très québécois. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir ce coup de cœur au travers de tous les endroits où j'ai voyagé, c'est la France qui est mon repère.
La France serait-elle ta 2e patrie?
Absolument.
Alors, tu as été communicateur, gestionnaire culturel, animateur, conférencier au sein de milieux scolaires, culturels et également littéraires. Tu es cofondateur de l'espace Félix Leclerc sur l'île d'Orléans au Québec. Tu as été président de cette fondation, la fondation Félix Leclerc, pendant une dizaine d'années, de 1994 à 2004. Ouais. Et puis, tu as travaillé avec des artistes qu'on connaît bien, Raymond Devos, Charles Aznavour, Linda Lemay. Après, sur la 4e de couverture, il y a peut-être des moins connus pour nous français. Chloé Sainte-Marie, Richard Séguin, Marc Favreau, Jean Lapointe.
Oui, ben ce sont des artistes québécois, disons, très connus. Mais oui, Raymond Devos, je suis le dernier à avoir produit Raymond Devos au Québec. Avant sa mort, Raymond est décédé 2 ans plus tard. Il s'est développé avec Raymond Devos une amitié tout à fait particulière, compte tenu qu'il aimait beaucoup Félix, c'était un grand ami de Félix. Et compte tenu que j'étais 9 ans pratiquement avec la fille de Félix Leclerc, où c'était une grande passion amoureuse, et ce qui a fait en sorte que la création de l'espace Félix Leclerc. Oui, c'est vrai, j'ai une vie assez mouvementée, mais j'ai eu cette chance, ce bonheur.
Riche et original.
Ben, je pense assez original, assez riche. Mais moi, j'ai un homme déterminé. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête dans la vie. Quand j'ai un rêve, j'évalue mes outils. Je suis un homme aussi très rationnel. Il faut faire attention. C'est pas parce que j'ai le côté artistique très développé que j'ai pas le côté rationnel en moi. Je suis très lucide. J'évalue mes outils. Et si je considère que j'ai ce qu'il faut, ou si je manque d'outils, est-ce que j'ai la volonté d'être capable d'aller chercher les outils qui me manquent dans la durée? Et après ça, je réalise mes rêves. Et l'espace Félix Leclerc, il n'y avait rien pour m'arrêter. Parce que j'ai... Tout de suite, dans l'univers de Félix m'a ouvert toutes les portes. Et il s'agissait d'avoir une bonne attitude avec des gars comme Raymond DeVos, comme Charles Aznavour qui nous a reçus je ne sais pas combien de fois au Festival de Troyes, à l'Île-Lorient, partout. On a créé des spectacles avec lui. Guy Béard, nommez-les, on a vraiment fait le tour. On a eu des gros événements au Salon des Maréchaux, au Palais Royal à Paris, avec le ministre d'Oust Blasi, et tout et tout. Mais vraiment, c'est une vie absolument incroyable. Ces 10 ans-là, c'est fou, là, c'est le paradis sur Terre. Je ne peux pas être désincarné de ma propre existence et je ne peux pas être désincarné de Vézelay, parce que Vézelay, ça demeure quand même la colline éternelle, ça demeure un lieu hautement de spiritualité, de chrétienté. Et qu'on soit agnostique ou non, comme notre ami Antoine, il en demeure pour moi que Vézé est un lieu hautement prisé par les touristes de partout au monde, et que c'est quand même le début de Compostelle. Bon, alors, comme je suis reçu à la Maison Jules Roy, je peux pas passer à côté de Vézé. Dans mon roman. Bon, depuis 2015, ça fait 3 séjours que je fais de 3 mois, ça va en faire 4 le prochain, parce que je quitte le Québec 10 jours, je reviens après pour terminer. La France change. Je sais pas, je trouve que la France est plus... Les Français sont plus tristounets. Je sens aussi la lourdeur administrative chez les Français. Je sens que ça les accable. Toute cette lourdeur administrative. Nous, on est des Américains du Nord. On n'a pas la panacée de toutes les qualités et de tout. On a nos défauts. Mais j'avoue que cette administration française, à ce que j'entends, parce que moi, je suis quand même choyé en France en ce moment, mais de ce que je vois, c'est que j'entends, oui. Et je sens une tristesse. Depuis les attentats, depuis tout en France, faut le dire, faut se dire les vraies choses. La France change. Il y a une morosité ici en ce moment.
À l'instant, Christian Bilodeau, lors d'un entretien enregistré en décembre 2017 à Clamecy et diffusé sur Radion le 27 décembre 2017. Reconnu au Québec, Christian Bilodeau fut communicateur, gestionnaire culturel, ayant développé de nombreux projets, entre autres le programme Jeunesse Cathy Mavic au Québec, celui de l'espace Félix Leclerc sur l'île d'Orléans, la relance de la fondation Félix Leclerc de 1994 à 2004 et comme producteur et gestionnaire d'événements culturels. En 2010, il avait publié son premier recueil de poésie et de contes intitulé « Lancer un câble aux étoiles », illustré par des peintres et photographes de la ville de Québec. Dans l'extrait que vous allez entendre, Christian Bilodeau jette un œil sur sa carrière. Lui qui fut ami avec le chanteur, auteur, compositeur Félix Leclerc, poète et défenseur de la langue française au Québec. Christian Bilodeau a côtoyé Raymond DeVos, Serge Reggiani, ou encore Charles Aznavour.
D'ailleurs, c'est ce qui a fait la richesse de tout ce segment de ma vie, d'avoir aussi eu le privilège, l'occasion de rencontrer ces artistes plus grands que nature et de découvrir des êtres aussi attachants, des gens dans l'authenticité du petit geste de la main. Et voilà ma grande surprise, que je me retrouve avec Raymond DeVos. Et j'en croyais, même moi, j'avais comme le vertige parce que je me disais, c'est des gens qu'on voit à la télévision, qu'on lit dans les journaux, qu'on apprécie, qu'on admire, mais croire qu'un jour on produirait leur spectacle ou qu'on serait en lien d'amitié avec eux, avouons quand même que, bon, on se dit, c'est la signature du destin. Et c'était la signature peut-être de Félix aussi, parce que Félix a ouvert les portes tellement grandes. Dans les années 50, quand il était à l'invitation de Jean Canetti, que tous ceux qui ont suivi sur la sente de ses pas ont eu le bonheur d'être accueillis en mémoire aussi de ce poète, de la poésie chantée.
Christian Bilodeau a un peu plus de 60 ans. Vous avez choisi de la vivre, cette soixantaine. Vous avez vendu tous vos biens.
Oui. Ouais,
vous dégagez en fait du matériel.
C'est pas un jugement de valeur sur le matérialisme ou les gens qui bon, on fera pas la didactique du matérialisme. C'est un état que je recherche depuis longtemps et que j'ai déjà commencé à vivre. J'aime comme homme à ce moment-ci de mon existence. Parce que faut être à bon compte, à 60 ans, on n'a pas 30, on n'en a plus 20. Et c'est une période de nos vies où souvent on a plus le temps d'y réfléchir, plus le temps de s'arrêter, plus le temps d'écrire. Alors, tout ce changement de regard, parce que pour moi, le regard, c'est fondamental. Alors, tout ce changement de regard sur ma propre existence, dans mon propre pays intérieur, sur le monde, sur la façon d'être en relation avec le monde, se joue aussi, s'exprime aussi par un certain dépouillement. J'ai tout vendu. J'ai même pas une cuillère. Et puis, je me suis dit que j'aurais l'audace d'aller au risque de l'existence. Et que cette audace serait toujours un peu à risque, mais en même temps aussi riche et féconde.
Avec toutes les surprises que cela peut impliquer.
Absolument, parce que quand on va au risque de soi, quand on quitte dépouillé, et puis des rencontres, des inattendus, des événements, parce qu'on ne contrôle pas tout. C'est-à-dire le destin, le hasard, mais soit aussi, soit par la volonté, par la détermination, par la lucidité aussi de certains choix, on finit par avoir un certain contrôle. Mais je dis bien un certain contrôle pour le bénéfice de vos auditeurs, puis je pense que les gens me comprennent. Il n'y a personne qui a le contrôle parfait sur sa vie. Sauf que moi, j'ai décidé à 60 ans que je trouvais que c'était un âge respectable. Et c'était peut-être le dernier moment, le dernier segment de mon existence où j'aurais la santé et l'énergie pour partir à l'aventure, dépouiller cette aventure dans une quête d'aller encore plus loin dans mon pays intérieur, d'aller encore plus loin dans la rencontre avec la vie, le monde, avec le regard qui façonne, qui va façonner ma façon d'être en relation avec la vie. Il y a divers pays en soi, qui nous mène à l'amour, à l'amitié, à des rencontres inattendues, à la liberté, à différentes expériences. Parce qu'au fond, moi, c'est vrai que mon vrai pays, et là, je me rends compte sérieusement, quand j'ai décidé de tout vendre et de partir léger, dépouillé, comme une bernache qui traverse la mer, je savais qu'il y avait une certaine forme de risque, mais en même temps, c'était cette quête de liberté. Je voulais expérimenter aussi cette quête de liberté et d'aller me laisser surprendre par la vie. Parce que je pense que la vie, elle ne déteste pas les êtres qui la confrontent. Ça l'a confronté d'une façon... Mais l'a confronté d'une façon intelligente. À quelque part, on dirait qu'elle aime qu'on la confronte, qu'on soit audacieux. Et je me rappelle un jour, dans une situation extrêmement pénible, je vivais un moment difficile, et j'avais dit à la vie, « Je t'avertis, je vais me tenir debout devant toi jusqu'à la fin. Et j'ai pas peur de toi, mais je suis prêt à composer avec toi, mais je t'avertis, je vais me tenir debout devant toi jusqu'à la fin. »
Vous tenez beaucoup à la vie, Christian Bilodeau, et puis, il y a un verbe aussi qui apparaît dans les derniers chapitres du roman « Au pays d'Alexandre », c'est le verbe « renaître ». Et il y a cette alternative « renaître » ou « mourir ». Vous, vous choisissez la renaissance, c'est-à-dire le triomphe d'une autre vie, d'une vie renouvelée, remodelée.
Absolument. Premièrement, la saison que je préfère le plus, c'est la saison qui s'appelle le printemps. Le printemps, c'est la renaissance. C'est la vie nouvelle qui recommence à fleurir par ses arbres, par ses fruits et tout et tout. Alors la nature est plus riche, plus abondante, plus féconde. Et moi, j'aime beaucoup mettre en opposition l'ombre et la lumière, parce que sans l'ombre ou sans la lumière, il y a ni un ni l'autre peut exister. Toutes les petites morts de nos vies sont aussi appelées à la renaissance. À chaque fois qu'on meurt à soi-même, qu'on est obligé de faire le deuil, que ce soit par la rupture amoureuse, que ce soit par la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, tout ce qui s'appelle les deuils, qui nous obligent à se remettre en question via ce qu'on veut pour la suite des choses, mais je pense que ça, c'est la renaissance. Et cette renaissance nous amène dans un état de conscience. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est important? C'est de développer le long de la vie humaine un regard qui nous amène à un état de conscience, une conscience sur soi et sur la vie, sur le monde. Parce que sans ce regard et sans cette conscience, rien ne peut vraiment venir comme caresser notre pays intérieur, venir comme donner un souffle, un élan au pays intérieur.
Christian Bilodeau, enregistré à la Maison Jules Roy à Vézelay en 2015, alors que nous évoquions son premier roman, Au pays d'Alexandre, qui raconte les aventures d'un Québécois qui parcourt la France à vélo et qui va se rapprocher de son fils, notamment en se rendant avec lui au pays des Inuits, dans le Grand Nord du Québec. Ce roman est d'ailleurs toujours disponible via Internet aux éditions La Semaine. Première virgule musicale dans cette émission et on se retrouve juste après pour la suite de cet hommage à Christian Bilodeau, poète et romancier québécois qui nous a quittés à l'âge de 63 ans le 23 avril dernier.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Il a grandi et vécu au pays des cabanes à rondins, des élans d'Amérique, des bûcherons et des indiens, comme il se plaisait à le dire. Je veux parler de Christian Bilodeau, poète et romancier québécois qui nous a quittés le 23 avril dernier à l'âge de 63 ans. Nous lui rendons ce soir hommage à travers une sélection d'extraits d'entretiens issus de nos archives. Et d'ailleurs, Christian n'aimait pas la vieillesse, mais il aimait, en revanche, les personnes âgées. Il s'en explique dans le document que vous allez découvrir dans quelques secondes. Et d'ailleurs, il avait coutume de dire qu'il se sentait toujours plus vivant lorsqu'il était sur son vélo.
C'est vrai, je me suis toujours senti plus vivant, plus dans le souffle de la vie. Parce que moi, je fais du vélo 4 saisons par année, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et quand je ressens le vent sur mon visage ou que je ressens le froid ou la chaleur ou la brise, la caresse des vents, que mes jambes me donnent le signal que elles ont besoin d'un petit repos, de peut-être rouler un petit peu plus doucement, je me sens en relation avec la vie. Vraiment, je me sens heureux. Et c'est un mode de transport que j'ai développé parce que Québec, c'est une cité, c'est une ville où on peut quand même faire du vélo, quoique je trouve que les pistes cyclables seraient peut-être encore à bonifier. Mais malgré tout, c'est une belle cité pour faire du vélo. Il y a des côtes aussi assez intéressantes. C'est ce qui fait aussi que, bon, pour le cardiovasculaire, c'est bon. Et pour moi, ben, c'est une belle façon de tenter de rester en santé avec l'énergie le plus possible et puis en même temps, c'est un beau mode de transport.
Donc au pays d'Alexandre, cet homme de 40 ans à vélo, ouais, en France, il emprunte les chemins de la vie, de la beauté, de l'amour, de l'amitié. Il y a un très grand nombre de rencontres tout au long du roman et notamment... Il y a une rencontre marquante avec un très vieil homme de 88 ans qui a été combattant pendant la Seconde Guerre mondiale en France et qui se prénomme Raoul. Et il va y avoir une amitié quasi filiale, enfin paternelle filiale entre ces deux hommes avec une différence d'âge, Raoul 88 ans et Alexandre la quarantaine. Alexandre, il vous ressemble dans ses réflexions. Il n'aime pas la vieillesse.
Ouais.
Pourquoi n'aimez-vous pas la vieillesse, Christian?
D'abord, je ferai une distinction importante. Je n'aime pas la vieillesse, mais j'aime les vieux. J'aime la mémoire des vieux, des vieilles personnes, parce que moi aussi, un jour, déjà à 60 ans, on n'est plus un jeune homme. Mais c'est vrai que j'aime pas la vieillesse, j'aime pas les peaux de chagrin. J'aime pas ce que la vie... offre comme chemin à l'homme. Cette vieillesse où souvent on perd la mémoire, on a des problèmes d'Alzheimer, des problèmes de scie, des problèmes de santé, les genoux qui ne veulent plus vraiment de fonctionner, de la dépendance, on trouve des gens dans des lieux, des bâtiments, dans des services inadéquats, infantilisés. Et moi, ça, un homme comme moi, la vieillesse, c'est mon pire ennemi que je déteste parce que je trouve que c'est une grande injustice de l'existence humaine que cette vieillesse où l'homme se... Oui, on a beau dire que oui, on a la connaissance, oui, on a la conscience encore plus grande, mais faut-il encore être capable d'en partager, de le faire partager avec d'autres générations? Et dites-moi où sont les sociétés où on prend les personnes plus âgées, plus expérimentées, puis on en fait des mentors pour les générations. Qui écoute les vieux maintenant? Si nos gouvernements décidaient de mettre à profit les mentors, que sont les personnes plus âgées avec l'expérience et tout, mais ils sont isolés la plupart du temps, abandonnés bien souvent par les familles parce qu'ils sont dérangeants, parce qu'ils ne sont plus productifs, parce qu'ils ne sont plus dans la société de consommation, quoique quand ils le sont, on leur charge des prix faramineux pour avoir un petit logement à chaque mois. Alors, bon, histoire courte, Alexandre n'aime pas les vieux. Mais c'est vrai qu'Alexandre, c'est un peu moi. C'est impossible. J'ai vraiment écrit ce roman à partir de mes imaginaires, mais les personnages sont mon regard.
Est-ce qu'il y a un Raoul dans votre...
Dans ma vie?
Existence?
Non. Il n'y a aucun Raoul dans mon existence. Mon grand-père est décédé à l'âge de 72 ans. Mon grand-père Bilodeau. Mon grand-père Tremblay est mort à 100 ans, en super condition physique. Il prenait encore son petit verre de gin le soir avant d'aller au lit, puis il est encore taquin avec la jante féminine. Alors, non, c'est pas ces exemples-là d'hommes, c'est la société en général. C'est quand je vois la vieillesse aujourd'hui. Et par le biais, le prisme des médias, ou du corps parfait, de la nina, nanana. Et puis moi aussi, je vois que je vieillis, et puis bon... Alors voilà, c'est ce rapport. Mais Raoul, lui, il va ramener à l'ordre notre jeune Alexandre. Il va lui montrer la vie.
Christian Bilodeau mettait toujours en scène dans ses romans des personnages qui veillaient à réaliser leurs rêves. Lui-même ressemblait à ces personnages de papier. Je lui avais demandé quel regard il jetait sur les coups du sort, ce que lui appelait les coups de gueule de la vie.
Quand on a des coups de gueule, quand c'est sous la griffe du destin, on a deux choix. C'est soit on demeure debout, on regarde droit en avant, on est résilient, sans abdiquer. La résilience ne veut pas dire l'abdication au combat, à la lutte, au droit à vouloir être heureux et tout et tout. Et le vieux Raoul, lui, a fait la guerre. Lui a eu les plus grands deuils qu'un être humain puisse ne pas vouloir vivre. Parce qu'il a perdu il a perdu sa femme, son garçon, son fils dans les bombardements allemands. Il a été dans les camps de concentration. Il a perdu des amis. Et tout et tout. Alors, quand tu es dans le train et que Alexandre voit arriver ce vieux monsieur, petit, grassouillet, un petit peu en sueur, qui sent les odeurs comme l'ail et qui sent des odeurs un petit peu nauséabondes pour Alexandre, lui qui est habitué d'être dans des univers d'esthétisme olfactif qui sont pas nécessairement... Il faut comprendre qu'il vient du Québec, hein? Il vient pas de la France. En France, on mange des fromages, les tables sont tellement garnies, tellement abondantes, tellement généreuses, mais c'est formidable.
D'ailleurs, le roman commence, le deuxième paragraphe.
Ah oui?
Il commence par des présentoirs de ouais. Poissons frais, de fruits et de légumes, d'olives vertes et noires, de volailles, de fromages, de charcuteries et d'épices, tous cordés les uns contre les autres. Bon, là, effectivement, il y a un bouquet d'odeurs dès qu'on ouvre les premières pages de votre roman.
Oui, parce que moi, la France, c'est un pays que j'ai côtoyé, que j'ai expérimenté à plusieurs reprises. Et ces grands marchés au printemps, ils sont tellement odorants, ils sont tellement beaux, ils sont tellement pleins de couleurs. C'est la vie qui renaît. C'est le printemps, c'est les femmes qui sont belles, c'est le soleil. On sent que tout veut renaître. On est dans la pleine renaissance. Et moi, aussitôt qu'on parle de renaissance, à chaque fois, et cette France du printemps, moi, c'est la France que j'ai toujours aimée. Alors évidemment, Alexandre est assis à une petite table et puis... il contemple tout ça, il se laisse porter, il se laisse bercer par ses sens, parce que c'est un sensuel. C'est un sensitif et un sensuel. Alors, et c'est normal qu'il soit heureux.
Je reviens à Raoul, donc le vieil homme de 88 ans dans votre roman « Au pays d'Alexandre ». Raoul confie cette phrase à votre héros, « Mourir n'est pas un péché, mais ne pas réaliser ses rêves » est un délit de fuite regrettable.
Oh, absolument. Et voilà que ces phrases qui interpellent Alexandre, un vieux monsieur, mais capable de pensées extrêmement puissantes, capable de saisir le sens de la vie, et en même temps qui est dans la relation... où il offre ce qu'il est, il offre son expérience, son regard à Alexandre. Au fond, c'est un peu ce qu'Alexandre vient chercher. Et surtout, on peut dire, moi je dirais que dans le roman, il y a un moment très précis, et vous l'avez remarqué, j'en suis persuadé, où Alexandre, malgré le fait qu'il voit arriver ce vieux monsieur, grassouillet, tout et tout, qui aurait aimé peut-être davantage une jeune femme, mais au fond, il aurait aimé personne. Il aurait voulu être tout seul à regarder par le carreau de la fenêtre du train la ruralité, la France campagnarde qui s'avance doucement par ses gares, par ses maisons, ses toits en tuiles et ses grands champs et tout et tout. Alors, et puis il pouvait s'évader aussi parce qu'il revenait sur une France où il avait vécu des choses extrêmement puissantes et importantes, mais ça faisait quand même quelques années qu'il n'était pas revenu. Et ce vieux Raoul qui vient s'asseoir en face, directement en face de lui, et qui lui dit, après 2-3 minutes, je crois que vous n'aimez pas les vieux, hein? Alors, qu'est-ce que Alexandre peut répondre à cette assertion? Vous n'aimez pas, je crois que vous n'aimez pas les vieux. Bon. Et là, Alexandre, il faut qu'il trouve une façon de s'en sortir. Mais il lui dit, mais c'est votre haleine. Il dit, vous permettez que je vous dise franchement qu'est-ce qui me déplaît. Il dit, c'est votre haleine, tout et tout. Alors, le Raoul sort un petit sac de papier brun avec des petites menthes à l'intérieur et il en offre une à Alexandre. Bon, c'est un geste anodin parce qu'en disant en offre une, il dit, vous savez, ma femme m'a toujours dit, Raoul, quand tu vas en public ou tu sors de la maison, traîne-toi toujours des petites menthes. Tu sais, des fois, ton haleine n'est pas toujours agréable. Mais il faut comprendre que ce petit sac est dans ses poches peut-être depuis un mois, je ne sais pas. Et c'est de voir la réaction d'Alexandre qu'on imagine. Mais c'est ça qui a ouvert la porte à l'accueil de ce lien tout à fait fabuleux entre une génération d'un homme de 88 ans qui a vécu, qui a donné sa vie pour sa patrie, pour sa famille, et qui rencontre un jeune qui, lui, est en pleine recherche, en pleine quête, de lui-même, à savoir qui il est vraiment, à apprendre sur la vie, parce que au fond, t'as beau réussir dans la carrière, mais il n'y a rien réussi sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan des amours, sur le plan de la vie filiale aussi avec son fils.
S'il est venu plus de 30 fois en France, Christian Bilodeau, inlassable voyageur, connaissait bien le Québec et ses merveilles, et notamment le pays des Inuits, dont il parle dans « Au pays d'Alexandre », son roman, et dans l'extrait que nous vous proposons, enregistré en 2015 à la Maison Jules Roy à Vézelay, il revient sur le pays des Inuits.
Je suis allé à quelques reprises, à Saluit, Détroit du Son, je suis allé à Deception Bay, Fort Chimo, un peu partout, j'ai même aussi été à la chasse avec les... Bon, parce qu'il faut bien faire la différence entre les Amérindiens et les Inuits. Mais j'ai été autant avec les Amérindiens que les Inuits du Grand Nord. Alors, je connais ce milieu, et pour moi, c'était signifiant. Parce que, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, je vais peut-être vous l'apprendre, mais le pays du Grand Nord du Québec, le pays des Inuits, est un pays... Où il y a beaucoup de pureté, il y a beaucoup de beauté, de vastitude, de grands horizons de mer et de montagnes. Des montagnes complètement isolées, dépouillées de tout arbre, de toute végétation. Et avec des ciels incomparables. Moi, j'ai vu la lune pleine, toute dans sa rondeur. J'ai vu le soleil un peu plus à l'horizon, descendu un petit peu plus à l'horizon, au niveau du regard, et j'ai vu les étoiles scintillantes avec les aurores boréales qui viennent faire leur jeu dans ce ciel tout à fait hors du commun. Alors, de partir avec son garçon, aller à la pêche, à l'ombre de chevalier, la truite de mer, aller faire du campement avec les Inuits, avec deux Inuits qui ont monté les tentes et tout, aller faire les feux de bois, prendre le temps, parce que la lenteur est importante aussi. Là, vraiment, on s'engage dans un voyage où la lenteur prend tout son temps. Et ce voyage sera en deux dimensions. Puis l'objectif du voyage, c'était pas anodin, parce que Alexandre est quand même conscient que qu'est-ce qu'il va léguer à Jonathan? Est-ce que c'est son entreprise? Est-ce que c'est de l'argent? C'est de sa maison, son condo? Il sait qu'à son fils, il doit plus qu'à ça.
Alors, le condo, c'est un appartement. Hein,
Oui. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, le condo, c'est un appartement. Alors...
Il veut lui laisser un regard, peut-être, sur la vie.
Absolument. Mais voilà, vous avez absolument raison. C'est le cœur, c'est le nœud gordien du roman. C'est Alexandre qui veut laisser un regard à son fils. Et premièrement, il y a deux activités initiatiques qui sont extrêmement importantes sur le plan onirique ou sur le plan de la poésie ou sur le plan de la métaphore. Mais dans le réel, c'est touchant parce qu'à la fois, ils vont construire un Inukshuk, et pour les auditeurs qui nous écoutent, un Inukshuk, c'est un homme de pierre. On en voit souvent dans les lieux du Grand Nord où sont les Inuits. C'est comme des amas de pierre qui sont montés avec au centre ou à la tête un espace qui est comme une fenêtre. Et ce sont des hommes de pierre qui surveillent, qui sont des anges gardiens un peu, si on peut prendre l'expression, pour la famille ou pour les gens qui l'ont construit. Et ça, c'était le projet, entre autres. Et le deuxième, c'était euh, de, faire le, lancer une bouteille à la mer. Alors, Alexandre et son père ont écrit un texte poétique. Parce que comme ils voulaient laisser une empreinte sur le temps, comme le père et le fils voulaient participer à une, un regard ensemble et dire à l'humanité, dire aux hommes qui ramasseront un jour la bouteille, bon, sans prétention, mais alors cette bouteille à la mer avait contenu un texte poétique qui a été lancé dans l'angle de la fenêtre de l'Inukshuk qu'ils ont construit. C'était beau, parce que dans cet Inukshuk, ou à la base, ils ont laissé des objets signifiants à leur vie. Bon, Jonathan a laissé le bracelet de son meilleur ami, qui est situé dans l'automobile.
Alexandre, il laisse la petite croix en bois que lui avait
donnée. Oui, Alexandre laisse la petite croix en bois que lui a donnée Raoul au départ, qui était pour la protéger, pour essayer de... Bon, alors voilà, il y a quelques objets comme ça qu'on va enterrer sous l'Inukshuk, et voilà, et c'est comme si c'était comme pour marquer le temps, marquer la présence et marquer la mémoire.
Et ça permet de se survivre à soi-même, en fait.
Ouais, absolument. Ça, c'est une façon de survivre à soi. Il y a des gens qui vont plus à risque de leur vie que d'autres. Il y en a qui vont vraiment au bout du bout de leurs rêves et bon, de tout et tout. Ce qui fait des vies des fois un petit peu plus risquées. Mais je crois beaucoup dans ce que cette phrase, je la trouve très signifiante, cette phrase. Il y a toujours la question de renaître, de cette renaissance. Et moi, c'est ce qui fait mon optimisme par rapport à l'existence humaine. Moi, j'ai aucune idée de ce que sera la mort ou l'éternité. Et je ne veux même pas le savoir. Sincèrement, en vérité, je le dis devant vos éditeurs, il y a un mystère à laquelle l'homme n'est pas capable de répondre en ce moment. Et j'ai la résilience devant le mystère. Et je ne me pose pas 100 000 questions. Je suis conscient quand même que la vie est un rêve éveillé. Et voilà un peu un roman où on vit pleinement. Mais vraiment, il y a de la vie. Même si c'est de la mort, il y a de la vie.
Christian Bilodeau, à l'instant, à notre micro. Christian Bilodeau, qui nous a quittés le 23 avril dernier au Québec à l'âge de 63 ans. Et c'est un hommage que nous lui rendons ce soir dans Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et nous marquons, si vous le voulez bien, un nouvel intermède musical.
She does not really see me, 'cause she sees her own. reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Da, 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 da.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci d'être avec nous ce 6 juin sur Radion pour saluer la mémoire du poète et romancier Christian Bilodeau, disparu en avril dernier à l'âge de 63 ans au Québec. Il vivait un peu comme un oiseau migrateur, toujours léger, comme une bernache, aimait-il à dire. Et lorsque je l'ai rencontré pour la première fois à Vézelay en 2015, il m'avait offert une imitation d'une voix de la forêt québécoise. Christian Bilodeau.
Ben, écoutez, il y a un oiseau. L'anecdote est... Je vous le fais rapidement. Quand je suis arrivé ici à Vézelay, et de ma chambre, bon, deux fenêtres, deux carreaux, des fenêtres qui donnent accès sur cette magnifique basilique Sainte-la-Madeleine, et avec des éclairages. Et j'arrive. J'ouvre tout grand les fenêtres, parce que moi, je suis un gars à moins 30, à moins 20, et j'arrive de l'hiver québécois, là. Alors imaginez, j'arrive ici, moi j'arrive dans cette Bourgogne florissante et tout. Et là, j'entends plein d'oiseaux. Et j'ai dit, tiens, je vais leur montrer que je suis arrivé. Et je vais vous faire le chant du Frédéric, qui est l'oiseau qui est une voix de la forêt québécoise. Alors, mon cher ami, quand j'ai fait ce chant du haut de la fenêtre en haut, j'ai senti une excitation des oiseaux de partout parce qu'ils venaient d'entendre une voix nouvelle. Et ce que j'ai aussi observé, c'est qu'au fur et à mesure que tous les jours, je siffle le Frédéric, ou ça s'appelle le bruant à gorge blanche. Et là, ils se sont habitués. Et là, ils sont plus tranquilles, plus... Et là, c'est comme si c'était une voix qui avait accepté. Mais je trouve ça fabuleux parce que les oiseaux, vous savez, ils se parlent entre eux. Hein. Alors, je voulais marquer de façon symbolique l'arrivée d'une voix de la forêt québécoise.
Mais notre voix québécoise ce soir, c'est celle de Christian Bilodeau, auquel nous rendons hommage. Et il ne serait pas raisonnable, lorsque l'on évoque la mémoire de Christian Bilodeau et que l'on tente de brosser un portrait de cet homme formidable, il ne serait pas raisonnable de passer à côté de l'admiration qu'il éprouvait pour une grande pianiste, Hélène Grimaud.
C'est un coup de cœur... tout à fait inattendu. Moi, je suis dans une quête de beauté. Bon, comme romancier, comme poète, ce qui me touche, j'ai cette quête de beauté. Et j'ai fait cette rencontre d'Hélène Grimaud par la voix des sites d'Internet sociaux et tout. Et quand j'ai commencé à découvrir, d'une part... son Rachmaninov opus 18 et que j'ai vu l'intensité de son jeu et l'émotion qui l'animait et l'intensité, elle m'a complètement chaviré, touché.
Et j'ai découvert par la suite qu'elle était aussi écrivaine. Mais elle a une plume tout à fait hors du commun. C'est une femme d'exception. C'est, vous trouvez peut-être que je suis assez dithyrambique par rapport à tout ce qu'elle peut représenter. Évidemment, c'est une femme d'une grande beauté que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement. Mais son écriture m'a vraiment touché. Vraiment, vraiment. Variation sauvage et tout et tout. Et en plus, elle s'occupe à Salem des loups. Et elle a écrit sur la mémoire Hélène Grimaud, française d'Aix-en-Provence, qui vit aux États-Unis, mais qui demeure pour la France une des grandes ambassadrices de France. Et si j'étais français, je serais très fier d'avoir une Hélène Grimaud comme fille du pays, comme fille du pays de la France.
Alors, dans Mémoire à la mer, tu fais une citation d'un écrit d'Hélène Grimaud, c'est la fille de Amy, notre quinquagénaire atteinte d'Alzheimer, qui, je crois, lui lit cet extrait.
Oui, absolument, c'est Maude. Maude qui aime l'écriture et qui fait découvrir à son père cette écrivaine qui s'appelle Hélène Grimaud. Et comme son père, évidemment, a des problèmes neurologiques au niveau de l'Alzheimer, elle lui écrit ce qu'Hélène Grimaud a couché sur papier, cette pensée. Alors, vous permettez que je vous la lise?
Volontiers, Christian.
Oui. La mémoire est un oubli qui se souvient. L'oubli, une mémoire qui, d'être en rapport avec l'essentiel, laisse une trace plus proche du signe que du silence. Et d'ailleurs, l'une des définitions de la musique serait peut-être d'être ce signe qui s'efface jusqu'à devenir une vibration silence. Pour l'écriture de ton récit, voilà une pensée très inspirante sur la mémoire, l'oubli, plus qu'un silence, un signe. Tu aimes, papa? Alors, c'est Maude, évidemment, qui intervient à son père. Tu aimes, papa?
Alors, Émile, il aime aussi la lecture. Il aime les poètes. Hein, il relit Baudelaire, Hugo, Verlaine.
Ouais, ouais.
Il écoute Brel. Et il écoute celui que tu appelles le poète des grands vents, des grandes marées et de l'immensité des horizons de mer.
C'est Gilles Vigneault. Oui. Ah, bah, absolument.
Leclerc aussi.
Oui, mais Leclerc est plus un poète terrien. Il est moins aérien. Gilles Vigneault est un poète davantage aérien, davantage d'eau, de grands horizons de mer et du pays. Gilles Vigneault est un poète du pays. Tandis que Leclerc est davantage du terroir, de la terre. Ce qui n'empêche pas Félix d'être extrêmement universel, même encore aujourd'hui. Même pour ceux des jeunes générations qui le lisent, vont encore trouver dans ses chansons ou dans sa littérature. Mais Vigneault, il est tout à fait spécial. Et il colle bien, il aime bien s'harmoniser à cette île au Bernache où mon personnage, Émile, a écrit sur sa vie.
Alors, ton personnage aime aussi écouter Aznavour, Ferré, Gainsbourg. Ce sont aussi tes propres goûts musicaux, Christian?
Absolument. Je veux dire, oui, parce qu'au fond, j'ai pas apporté à Émile des personnages ou des artistes avec lesquels moi, j'étais pas en accord. Tous ces personnages sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
On marque, si vous le voulez bien, une nouvelle virgule musicale dans notre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour un hommage au poète et romancier québécois Christian Bilodeau. Juste avant l'intermède musical, je voudrais glisser une information concernant un salon du livre qui se tiendra le dimanche 17 juin prochain. C'est dans Lyon, de 10h à 18h. En effet, rendez-vous à l'orangerie du château d'Ancilfranc, dans le Tonnerrois, pour le deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. Une cinquantaine d'écrivains et d'illustrateurs seront présents et c'est Pascal Pujol, Grand Prix National Lions 2017, qui en est l'invité d'honneur. Et c'est Jean-Pierre Canet, Prix Bocas de la Nouvelle 2014, qui en est le parrain. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Thank you.
gèle le menton au pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous accompagner à bord de votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour une émission hommage à Christian Bilodeau, écrivain québécois disparu en avril dernier. Dans l'extrait que nous allons vous donner à entendre, il revient sur les liens qui l'unissent à la France et sur l'attachement qu'il nourrit avec ses ancêtres qui vécurent en France avant d'émigrer au Québec, formidable aventure de l'épopée des géants de pays que retrace son dernier roman « Terre de souche » paru en novembre 2017 dans une maison d'édition de Chicoutimi, les éditions Viva. Christian Bilodeau.
J'étais touché un jour par la lecture d'un texte d'une lettre de l'arrière-grand-mère bourguignonne, qui était de Pluvet.
En Côte d'Or,
à sa fille, installée à Péribonca, au lac Saint-Jean, Sainte-Jeanne d'Arc. Et cette lettre, je sentais tout le désarroi de ces mots, de cette maman qui avait perdu finalement sa fille, ses petits-enfants. Elle avait une fille et un fils. Et ça m'a tellement touché, tellement ému, j'ai tellement ressenti la souffrance de ces bourguignons qui ont traversé la France, mais surtout de ceux qui sont restés et qui étaient évidemment à des milliers de kilomètres de ceux qui leur sont chers, que je me suis dit, oh, il y a une souffrance là. Et on avait, peut-être qu'au Québec, on a oublié qu'il y a des Français. D'abord, nous sommes une société, une civilisation française, francophone. Nous sommes issus de ces souches. Voilà pourquoi que Terre de souche a deux sens, deux significations. D'abord, la souche première qui est la France. Et cette émotion que j'ai ressentie, cette souffrance que j'ai ressentie de part de la mère, de la famille, qui ne reverront plus jamais leurs enfants finalement dans la réalité, mais dans la fiction, les gens liront, verront autre chose peut-être, sûrement même. Alors ça m'a donné ce goût de parcourir cette vie de deux bourguignons qui un jour décident de traverser la mer en 1907. Mais tout le roman s'ouvre quand même sur la France. Et je trouvais important d'ouvrir le roman sur le pays du premier ancrage. Je pense qu'aucun aucun de vos lecteurs n'imagine qu'un écrivain ne s'investit pas, ne s'inscrit pas lui-même au travers de ses mots. Évidemment, il y a toute la partie fictive. Mais moi, à 15-16 ans, du tempérament que j'ai, et avec la vie que j'ai menée, c'est le genre, j'aurais aimé devenir compagnon de rivière, voyager, découvrir le monde. Au fond, c'est vous, le paradoxe de ma vie, c'est que je le fais à 60 ans. Je réalise à 60 ans, je l'ai fait toute ma vie. Mais là, je suis sac à dos, léger. Je suis un oiseau, je vis comme un oiseau. Alors, ce qui me permet de me consacrer totalement à l'écriture. Et au fond, je fais la vie. La vie, peut-être que mon héros, dans mon roman, a voulu faire, a réalisé. Parce que son père l'a pas réalisé. Je veux dire aux Français, aux Bourguignons, entre autres, que sans eux, sans toute cette cohorte de Français, le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que la France a souffert au Québec aussi. Il y a des Français que... Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que c'est de partir de Paris, du 13e arrondissement, ou peu importe, ou de la Bourgogne plus douce, plus doucereuse, plus... et arriver dans un pays à moins 30, où le premier voisin est à 2 km dans le rang 17, au travers de la forêt, une forêt dense, des rivières complètement tempétueuses, chicanières comme c'est pas possible, et tenter de survivre et vivre dans un camp en rondin, en bois, avec un petit poêle qui chauffe à moitié, et où Émilie met bas un petit bébé. Il fait tellement froid qu'elle a du givre dans les cheveux. Alors, c'est quand même pas rien là, comme changement de vie. Alors, moi, je vous dis, je suis Québécois, et je vois le Québec d'aujourd'hui, et je me dis, je ne peux pas. Évidemment, parce que ma grand-mère... et dans mon sang, et c'est peut-être moi qui est dans son sang, elle, et le sang de mes ancêtres, mais je ne pouvais pas ne pas souligner ce côté très constructif, très positif, très riche de la part de la France au développement de la société québécoise.
À l'instant, c'était Christian Bilodeau, et c'est sur ce constat si réconfortant pour nous, Françaises et Français, que nous allons clore cet hommage qui saluait ce soir la mémoire de Christian Bilodeau, écrivain québécois disparu le 23 avril dernier. Alors, prochainement, puisque les vacances approchent, que vous soyez sur la plage ou à l'ombre de votre cerisier, découvrez les romans de Christian Bilodeau auxquels nous avons rendu hommage. Au pays d'Alexandre et Mémoire à la mer sont disponibles via Internet aux éditions La Semaine, sans oublier bien sûr le dernier roman de Christian intitulé Terre de souche est disponible aux éditions Viva. Autre vive émotion la semaine dernière dans le paysage éditorial bourguignon suite à l'annonce de la mise en liquidation des éditions de l'Armançon, créées en 1987 par Gérard et Chantal Gauthier. Plus de 300 titres, une centaine d'auteurs qui promouvaient la Bourgogne. Et c'est effectivement une information bien triste parce que, effectivement, c'était la grande maison d'édition bourguignonne. Elle disparaît donc et nous en sommes effectivement très, très chagrinés. Une information concernant un salon du livre dont j'ai parlé dans l'émission, c'est celui qui se tiendra le dimanche 17 juin prochain dans Lyon de 10h à 18h au château d'Ancy-le-Franc dans le Tonnerrois. C'est effectivement le deuxième salon du livre d'auteur organisé par le Lions Club Centre-Est. 50 écrivains et illustrateurs seront réunis et c'est Pascal Pujol, Grand Prix National Lyons 2017 qui en est l'invité d'honneur et c'est Jean-Pierre Canet, prix Bocage de la Nouvelle 2014 qui en est le parrain. Prochain numéro de Wagon Livre, mercredi 13 juin prochain, toujours à 21h sur Radion, avec la diffusion d'une conférence consacrée à Romain Rolland et la Grande Guerre. C'est une conférence donnée par Jean Lacoste le 5 mai dernier à Châtel-Sensoir et que nous vous proposerons dans son intégralité. C'est donc le 13 juin prochain à 21h sur Radion 90.5 dans Lyon ou via internet sur le www.radion.fr. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you.